et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Denis Gravel est en place. Pascal Cévé est là pour nous surveiller. Avec un t-shirt qu'elle n'a pas changé depuis hier soir, de ce qu'on conçoit.
Pourquoi vous m'écœurez avec mon chandail Bonnaroo Festival? Il est tellement beau, là.
C'est un chandail de gars ou un chandail de fille en partant? Moi, c'est la première question.
Ouais. Ouais. C'est toujours ta question, à chaque matin.
Je veux savoir dans quel lit tu t'es réveillé et avec qui. Puis là, ben, tu m'as dit c'est un chandail de fille. J'ai dit, ah ben écoute, à l'âge que t'as, tu peux expérimenter. Je veux savoir c'est à qui.
Je comprends pas pourquoi les histoires de couchettes vous intéressent autant, hein, vraiment. C'est toujours mes chandails. Ouais. C'est juste que j'aime beaucoup magasiner aussi dans l'homme côté grandeur.
Tu magasines dans l'homme.
Mais j'aime ça.
C'est lâche pour ça.
Voyez-vous
c'est
pourquoi je vous gère pas?
J'apprécie ta belle liberté.
Mais non, je l'aime. C'est pour femme, celui-là. Mm-hmm. Tu vois, il est plus petit, là.
Fait que tu magasines dans la femme aussi. Bref, tu magasines.
Moi, je suis une bonne magasineuse.
Qu'est-ce qui vous stimule à prendre les chemises de vos conjoints ou encore les T-shirts de vos conjoints?
Ben, c'est clairement mec T-shirt, là. Ouais. Okay? Mais mettons, quand je t'en coupe, si je prends la chemise ou le T-shirt de mon conjoint...
Ça veut dire quoi?
Je sais pas. T'es bien, ça sent bon, sont beaux.
Moi, je n'ai trois de perdus, là, actuellement.
Ça. Et ça, ils ne seront pas retrouvés.
Je sais même plus son où.
C'est ça, je te garantis que tu les revois jamais.
Des fois, j'en spotte un en bas, en dessous d'un coussin, quelque chose, mais c'est clairement un peu à moi.
Oh, non. Quand on aime, on part. C'était pas un emprunt, c'est un emprunt à long terme.
Ouais, c'est ça. Puis la petite chez nous, elle a pris un de mes T-shirts.
Oui?
Elle l'a adopté. Puis à un moment donné, j'ai dit...
Pourtant, les tiens...
Tu sais que c'est mon T-shirt, hein? Elle dit, mais non. J'ai dit, mais oui, ça fait quand même 2 ans que tu le mets. Là.
Ça se peut qu'elle l'ait coupé un peu aussi, puis noué, tu sais.
Non, elle a pas fait ça.
Parce que ça nous arrive aussi.
Mais c'est devenu son T-shirt.
Mais pourtant, les tiens, c'est pas ceux que je choisirais. Tu sais, mettons...
Pourquoi tu penses que ces T-shirts sont pas confortables, sont trop serrés?
Ben, peut-être à la maison.
Tu veux-tu ma chemise? Tu vas te faire une tente dedans.
Mais elle, vois-tu, je pourrais la porter. C'est pas ma favorite.
Tu pourrais te faire, tu sais, comment est-ce qu'ils appellent ça dans les pubs, là, le grand chapiteau, là, sous le grand chapiteau.
Où tu joues au parachute.
Le cycle du soleil pourrait faire un été là-dedans.
Mais j'aime beaucoup celle de lutte. Si un jour tu la perds au bureau, tu risques de pas la revoir. Elle, sur moi.
Toi, tu la mettrais.
Oui, moi, je la mettrais. Okay. Avec des shorts, mais vous allez encore dire, j'ai pas l'air d'avoir de pantalon.
Puis mettons, Denis essaie d'expliquer ça à sa blonde. Que sa collègue se promène avec sa chemise.
Ça, je ne ferais pas ça.
Ouais.
Mais mettons que Denis est célibataire, puis il est perdu. Non.
Ah, barnouche.
Puis qu'il est perdu.
C'est le fun, le petit stop.
Non, Denis est célibataire, puis il est perdu.
Fait du bien à l'ego.
Ben écoute, on vieillit bien. Hein? Faut se dire ça.
Je veux juste rappeler qu'on a trouvé une paire de boxeurs à Denis dans un local ici. Je pense qu'il pourrait être assez perdu pour y échapper une chemise.
C'est toi.
Quand tu dis on, là.
J'exclus la personne qui parle.
Mais non, je reçois pour la première fois un collaborateur. Le gars, il dit « Ouais, parfait, je vais venir faire un test. » Et il est dans le studio de podcast.
Vous voulez carré, hein? L'arroseur arrosé, mon Denis.
Il dit « Où est-ce que je m'assois? » Ben, je prendrai cette chaise-là. Il dit « Ah, il y a quelque chose sur la chaise. » Il lève.
C'est des boxeurs.
Je pense que... Les gars, vous êtes plus où vous étiez avant, là. Un peu de décorum.
Ouais.
Moi, il a fallu que je m'abaisse. Vous, il faut que vous augmentiez.
C'était pire où on était avant. Il y avait un divan où on interdisait aux filles de s'asseoir dessus pour pas qu'elles tombent enceintes.
C'est vrai.
Non, vous
c'est
êtes vrai. Dégueulasse.
Il y a vous des êtes... sleeping bags qu'on a jetés dans l'ancienne station.
Mais vous
Mais bref, il y avait les boxeurs de Denis sur la chaise de l'invité qui était mon collaborateur.
C'est parce que j'ai fait un changement de vêtements rapide. Puis je me suis dit, je me suis dit, le studio de podcast, c'est probablement l'endroit où personne va aller aujourd'hui.
Mais c'était pas ma question. Le changement rapide de vêtements, c'était pour...
Mon Dieu. Chronologiquement, il faut que je retourne d'une place plate. Fait que on dirait que j'ai pas le goût.
OK.
Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est la bonne nouvelle en soi, puis c'est un message au patron, quand c'est rendu que tu laisses traîner tes boxeurs, c'est que tu te sens chez toi.
Peut-être un peu trop pour les collègues.
La famille Leclerc, c'est ça.
Et voilà.
Mais laisse traîner ta chemise de lutteur. Ouais. Quand tu seras célibataire, elle ne reviendra pas.
Il n'y a pas d'histoire grivoise avec les boxeurs qui traînent, malheureusement. Là, c'est juste une histoire de changement.
C'est moi qui dis la vérité à vos jokes poches, mais je vois qu'il y a un malaise assez présent dans ce studio.
Il y a une belle ambiance, la famille Leclerc, ça va bien.
Ben oui, mais je commencerai pas à laver ses bobettes. Là.
Non,
non, tu veux juste porter mes chemises.
Mettons que t'étais célibataire.
Mettons. C'est ça.
Bon, hey, midi 5, brassons donc un peu de marde.
Manquerait pas de rebound, mec, mes affaires chient. Hein?
C'est juste chaque je passe en deuxième.
C'est correct. T'en feras pas. Connais-tu Marie-Louise Arsenault?
Oui.
C'est une animatrice
mais pas personnellement.
De télé. Mm-hmm. Je pense qu'elle est à Télé-Québec, elle.
Oui.
Elle a déjà fait de la radio, elle a déjà fait un peu de télé
encore.
Aussi, plus, oui. plus généraliste. Toi, tu la connais-tu?
Un peu, oui.
Elle anime une émission dans les médias, mm-hmm. puis elle a reçu Mec Gilles.
MC
Gilles. On l'appelle MC Gilles, là.
C'est Mec Gilles.
Moi, je l'appelle pas genre un sandwich, là.
Oui. MC Gilles.
Il vient-tu avec une frite puis une liqueur?
Tu l'as en trio?
C'est MC Gilles.
Mais tu sais,
elle a reçu Mec Gilles.
Il y a eu des gros changements. À Montréal, il y avait une grosse station de radio. Là, maintenant, il va y en avoir deux parce que la famille Leclerc a pris des décisions. Mais il y avait une grosse station de radio, puis c'était la station de radio la plus écoutée en Amérique du Nord, de mémoire.
Ouais.
Et Paul Arcand était là. Et à partir du moment où Paul Arcand a dit « Moi, je m'en vais », il y a le trône qui a commencé à être challengé et la marre de pogner dans l'entreprise. Il y a des gens qui ont dû quitter pour on ne sait quelle raison encore. Comment il s'appelle, le chroniqueur économique là, que j'aime
bien? Pierre-Yves
McSween. Ouais.
Pierre-Yves McSween qui a dû quitter. MC Gilles, qui n'a jamais été quelqu'un qui était problématique dans une entreprise, a dû quitter aussi. Puis on
ça faisait longtemps qu'il était là.
Oui, mais on ne savait pas
plus
trop.
Plus d'une dizaine d'années.
10 ans? Ah ouais.
Ah, plus de ça. Plus que ça.
Il ne dit pas 19 ans?
Ben, ah, moi, je pense que c'est ouais. plus que 10 ans, là. Puis, il était à Infoman, hein, puis il est rentré comme en même temps. Moi, je suis fan fini là, de tout ça. Fait que...
Puis là, ben, Marie-Louise Arsenault a commencé à poser des questions à MC Gilles ou Mec Gilles. Il a dit, mais pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui se passait? On écoute Mec Gilles.
Arrête de l'appeler Mec Gilles.
C'est au tour de Pierre-Yves McSween,
ouais.
qui est un autre collaborateur vedette du 98.5, d'être congédié.
Ouais.
Le jour même, c'est vous qui parlez aux médias, c'est
ben
pas ouais. Pierre-Yves.
Ben non.
Vous parlez à Étienne Paré du Devoir.
Ouais.
Vous dites il y avait de grosses tensions depuis des années entre Pierre-Yves et ouais. Patrick.
Il n'y a pas juste moi qui ai parlé à Étienne Paré. Ouais. Je suis le seul qui a parlé en mettant mon nom. Bon, parce qu'Étienne a parlé à beaucoup de monde. maintenant, on va poser une question. Est-ce qu'ils sont toujours bien entendus? Non. C'est assez clair.
Comment vous expliquez ça?
Le départ de Pierre-Yves McSween?
Oui.
Je pense que lui-même l'a dit en entrevue. Si lui ne se l'explique pas, imaginez-moi.
Oh, vous avez sûrement une hypothèse ou deux quand
ben,
même.
C'est une
là.
Décision...
Ça fait 19 ans que vous êtes dans cette chaîne-là. Là.
C'est une décision particulière. C'est un chroniqueur aimé qui rapportait de l'argent à la chaîne.
Beaucoup d'argent?
Je pense que oui. En tout cas, on l'entendait. Sa chronique était commanditée. La mienne ne l'était pas.
Ça veut dire quoi, au 98.5? Ça veut dire des centaines de milliers de dollars de revenus?
Je sais pas. Mais c'est de l'argent. Parce que c'est normal, c'est de la radio privée.
Ouais. Là, on a quand même deux joueurs importants qui partent pour des raisons, en tout cas, je vous cite, là,
mm-hmm.
qui seraient de l'ordre de la relation avec Patrick. C'est comment travailler avec Patrick? Est-ce que je peux vous poser la question autrement?
J'ai adoré travailler avec Paul Arcand durant 19 ans. Beaucoup aimé ça.
C'est fait avec un bon doigté, là.
OK, fait que les gros égos radio puis le bitchage radio s'en va à Montréal. Bon débarras, revenez plus.
Moi, je suis fascinée qu'une entrevue comme ça ait lieu. T'sais, c'est très potin, c'est
moi,
très dans les coulisses.
Moi
oui,
aussi.
Mais tout le monde se régale d'une affaire de même. Tout le monde se régale des potins et autres. Mais Marie-Louise Arsenault qui décide de poser des questions, on parle pas d'enjeux. Cette femme-là parle régulièrement d'enjeux, de politique, de ci, de ça. Là, on est dans... que ce qui s'est passé dans les couloirs.
Mais là, c'est la première fois qu'il se passe de quoi dans Radio Montréalaise
ben
depuis Rock et Belles Oreilles. Là, je veux dire, about time là, que la radio commence à prendre de la place puis de voir que plusieurs ont l'intérêt de devenir le successeur au trône. Présentement, la Radio Montréalaise, et pour les prochaines années, c'est le House of the Dragon radiophonique.
J'allais
là,
dire Game of Thrones.
Je pense que Mario Dumont se voit très bien comme le successeur de Paul Arcand. Je pense que Patrick Lagacé se voit très bien en se regardant comme un successeur probablement meilleur que Paul Arcand, selon sa propre évaluation.
Vous êtes tellement vipère.
Tellement prétentieux.
Non, mais moi, ce type de d'entrevue-là, j'aime ça parce que la vérité sort.
Ben oui.
Mais là, c'est la vérité de certaines personnes.
Je sais ce que tu vas me dire, Pascal.
Moi, j'aimerais ça entendre aussi Patrick Lagacé là-dessus.
Toute vérité.
On l'a assez entendu à vie, Patrick Lagacé. Là,
toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Ben, je m'excuse, moi, je l'ai dit la vérité. Mes ancêtres, la tête vérité n'est pas nécessairement... Oui, mais ben, moi, j'aime la vérité.
On parle pas de ta syphilis en onde, je pense pas que c'est bon à dire.
C'est-tu la vérité?
Est-ce que c'est vraiment la vérité?
Vous ne le savez pas.
J'ai été chanceux, j'ai jamais rien pogné.
Mais non, ça a monté dans ta gorge récemment.
Moi non plus, j'ai été chanceux. très chanceux.
Les gars, vous le savez peut-être même pas.
C'est vrai. Ça
les gars,
ça,
vous le savez peut-être
ça
même pas.
Ça pourrait dormir en nous.
Bien, il y a pas vraiment... Tu sais, il y a plusieurs... C'est pas où on est rendu. Il y a plusieurs...
Bien là, tu voulais pas parler de Patrick Lagacé, fait qu'on est rendu des maladies vénériennes.
Je veux pas que vous fassiez une corrélation.
Bien là, par association, c'est là qu'on est rendu. Je sais pas.
Je veux pas que fassiez... Mais il y a plusieurs ITSS, messieurs, si vous m'écoutez,
on parlait d'affaires dures à se débarrasser. Patrick Lagacé, maladies vénériennes. On est encore dans le même temps.
Je me retire.
C'est ce qu'il faut faire dans ce temps-là.
C'est toi qui es supposé nous surveiller,
je
pas le contraire.
Je d'un œil, mais
ben
je
oui, je sais. Hey, jasons donc de nos moutons à nous
oui,
autres.
Oui, il n'y a quelques-uns. Hein?
Le maire Marchand qui a décidé d'accorder des entrevues aux journalistes écrits. Je pense qu'il a accordé une entrevue aussi à Radio-Canada Télé, ce qui fait en sorte que dans les prochains jours, on devrait le voir apparaître dans les stations de radio.
Jeudi prochain, dans jeudi le prochain. Retour, oui.
Et lui parle plus de guerre à l'auto. En fait, il veut pas qu'on dise de lui qu'il fait la guerre à l'auto. Le maire Marchand dit « Non, moi, je fais la guerre à la congestion. »
Par le transport en commun.
Il a changé le vocabulaire.
Ouais. Ben oui. Ben, mm-hmm. Tu sais, il reste pas grand temps là, pour se faire valoir. Il n'y a pas de bilan, le maire Marchand. On en a d'ailleurs parlé dans les dernières semaines. Il n'y en a pas de bilan à présenter positif, si ce n'est que les taxes qu'il a inventées.
Là, c'est l'heure des décisions, puis ça commence à rentrer tranquillement, là, les choix que Bruno Marchand fait pour sa dernière année. On voit qu'il va renoncer à des montants d'argent assez appréciables pour essayer de calmer le jeu un peu avec les contribuables. Tu as vu, évidemment, la hausse de l'évaluation foncière.
23 % pour les résidentiels.
C'est énorme. Et il dit qu'il va rajuster la taxe pour faire en sorte que nous autres, les propriétaires, on ne file pas de différence, ce qui ferait en sorte, selon la version de l'Hôtel de Ville, qu'ils ne gagneront pas un seul sou supplémentaire avec cette hausse-là. Ça doit faire mal en tabarnouche là, de dire « Voici le montant que j'aurais fait, mais là, il faut que je choisisse mes combats. » J'ai l'impression que la taxe à l'immatriculation, ça va peut-être être la dernière étape là, de voir comment Bruno Marchand s'oriente pour sa dernière année avant le combat électoral que bien des gens attendent d'ailleurs. Mais ça, c'est une décision électorale. Ouais. C'est rien d'autre parce que la Ville de Québec a besoin d'argent qui rentre. Ça, c'était de l'argent facile à ramasser. Et à la limite, tu étais en mesure de le justifier avec la hausse de l'évaluation. Si tu tournes le dos à ça... C'est une décision électorale pour faire plaisir au monde.
Quand un politicien a le cul sur un siège éjectable, il va devenir hyper performant. Curieusement. Ouais. Souvenez-vous de la défaite dans Jean Talon? À un moment donné, là, Geneviève Guilbeault a commencé à sortir en disant ce que les gens de Québec s'attendaient pour leur ville.
Ouais.
Alors qu'elle avait toujours dit le contraire.
Mm-hmm.
François Legault a dit bon, on n'a peut-être pas assez écouté les gens, on devrait peut-être un peu plus les écouter. Et ça, c'était le lendemain de la défaite dans Jean Talon. On dirait que ça prend un moment où on leur dit hey, c'est parce que ton mandat, il finit bientôt, on va te crisser dehors. Ah, ben finalement, on va travailler pour notre population.
Ben, c'est le principe de la démocratie. Hein. Un coup qu'elle s'est exprimée, la défaite peut rendre humble. Puis avant qu'elle s'exprime, là, tu te rappelles, OK, j'ai des idéaux, j'ai des objectifs, mais il faut que je réponde à du monde aussi. Là. Puis ces gens-là s'en vont aux urnes bientôt. Puis présentement, je suis ex aequo dans les sondages avec un fantôme. Fait que c'est peut-être le temps que je commence à ménager certains aspects de mes messages et ainsi de suite.
Moi, je ne vous ménagerai pas là-dessus parce que je suis vraiment en accord avec votre analyse. Il s'est passé quelque chose qui
ben oui.
Je veux être réélu.
C'est sûr.
Fait que je vais m'adapter. Mais moi, ce genre, puis je sors de juste Bruno Marchand, mais ce genre de personnalité-là, j'ai beaucoup de pas de recul et de retrait. Parce que là, tantôt, on parlait de Game of Thrones.
Ouais.
On pourrait parler de Succession comme série. Bon,
c'est toute la même affaire. Les luttes au pouvoir.
Mais il y a quelque chose qui peut m'effrayer dans un comportement qui est adaptatif.
Ouais. Puis en même temps, il n'y a pas le choix parce qu'il y a eu des irritants là, avec les citoyens de Québec sur les façons de communiquer certaines décisions, le changement de vocabulaire par rapport aux automobilistes, puis tout ça a été réfléchi là, dans les dernières semaines. Là. Peut-être que le temps d'arrêt du virus, mystérieux d'ailleurs. C'est bizarre, ça. Pourquoi tu fais une histoire avec ça?
Mais curieusement, là, tu vas dire, hey, Yann, je reviens pas que tu sois d'accord avec, mais si j'avais eu la diarrhée, là,
ouais.
J'aurais dit la même affaire. C'est pas de vos affaires, mon virus.
Ouais, oui, mais au pire, tu le dis.
C'est sûr que quand c'est le grand déversement.
C'est pas de vos... Mais c'est pas des affaires.
Mais quand Audrey file pas, elle nous le dit qu'elle chie par les deux bouts. Il n'y a rien là.
Ben,
tout
moi,
le monde chie.
T'aurais jamais dit ça, tu comprends?
Non, mais si t'as une gastro, dis-le.
Ouais, mettons Y, là.
Ouais.
Il entend que le maire a eu une gastro pendant 2-3 jours.
Tu penses
que
ça va être quoi,
ça va être quoi son dessin?
Qui va se baigner dedans?
C'est bien qu'Y.
Qui va se baigner dedans dans
BD? C'est bien qu'Y dessinera pas une gastro, voyons donc.
Il va mettre sa mamade dans un déversement à côté.
Je vois déjà la photo, mais le dessin, le maire marchand bien penché, puis les payeurs de taxes qui reçoivent tout ça en face.
Sa mamade surfe sa vague.
C'est pas... C'est une maudite bonne idée, mais c'est pas Y qui l'aurait fait.
Non. Mais c'est ça. Moi, je suis de l'avis du maire marchand.
Oui, on est tous sous, okay.
Il a été malade pendant 2 jours. C'est pas des affaires des journalistes à savoir c'est quoi sa maladie. Il a le droit d'être malade comme toi puis moi.
Oui, mais moi, je l'aurais dit. Écoute, si j'ai un gastro, j'ai un gastro. J'ai pas cette pudeur-là. Ouais. En même temps, on parlait de syphilis tantôt. Si j'ai syphilis, je le dirais peut-être pas en
nombre. C'est ça. Chacun son degré
me garder
de pudeur.
Ouais, t'as peut-être un point,
Marceau.
J'ai un
degré de pudeur.
Il est revenu sur son courage, parce qu'il dit que ça prend beaucoup de courage pour accroître la taxe sur l'immatriculation, la fameuse Gestapo des chats aussi qui est mise en place.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, vous devez dénoncer votre chat et payer l'immatriculation pour votre chat, et ça, à chaque année. Vous devez dénoncer que vous avez un foyer chez vous, puis vous devez nous envoyer votre adresse. Il dit que ça prend du courage. Honnêtement, je pense pas que ça prend du courage de prendre de l'argent dans la poche du monde.
Le seul courage qu'on pourrait lui donner dans une... Puis tu n'aimeras pas ce que je vais dire, Yann. Le seul courage qu'on pourrait lui donner dans la dernière allée électorale, c'est de pas changer de discours sur le trafic à Québec puis les automobilistes. Et peut-être le dire de façon plus claire. Puis peut-être arrêter d'infantiliser le monde. Parce que le problème qu'on a présentement avec les moyens de transport, c'est qu'on veut dire des choses, mais on les dit pas vraiment.
Qu'est-ce que tu veux dire? On nie qu'il y a du trafic, mettons?
Ça se dit, ça prend moins de chars à Québec, puis il faut trouver d'autres choses. Sans ça, la ville va péter, puis on sera plus capable de rentrer dedans, comme à Boston, comme à Rome, comme dans un paquet de villes où le trafic s'empile.
Parce que ça va être trop long de développer des infrastructures.
On n'a pas le choix. Arrêtez là, de ménager la chèvre puis le chou. Si c'est ça que vous voulez faire, expliquez-le avec des chiffres. Il l'a fait un peu dans ses entrevues éditoriales avec Le Soleil puis le Journal de Québec. Mais ça prendrait un certain courage de ne pas reculer là-dessus puis de dire « Le monde m'aime pas quand je dis ça, mais je vais lui dire quelque chose qu'il n'aime pas entendre parce que c'est une vérité puis c'est un christi de problème qu'on va avoir dans 20 ans, dans 30 ans. » Ça prend un certain courage politique. Garder un message que le monde n'aime pas parce que toi, tu le trouves important, mais ça n'est pas une forme de courage.
Amener des solutions. La semaine dernière, je lisais un truc sur l'urbanisme puis la façon de faire pour justement essayer de soulager le trafic.
Oui.
Puis on a commencé à le faire avec l'air la bombe. Puis moi, je pense que c'est l'air la bombe qui nous apportait ça. C'était de déplacer les centres-villes. On en a eu un qui s'est créé, un centre-ville, dans le secteur de Place Laurier.
Oui.
On en a eu un qu'on a commencé à faire dans le secteur de Destimauville. Le Bourgneuf est rendu comme un genre de petit centre-ville en soi. On peut faire ce genre d'aménagement-là, puis ensuite, dans ces endroits-là, bâtir en hauteur.
Mais on est tough. On est tough comme population, puis je pense qu'on l'est, puis tu viens de me faire réfléchir, Denis, parce que justement, on nous explique mal les choses, on nous l'explique pas finalement.
On nous l'explique pas.
Parce qu'on veut pas se faire haïr sur le coup. Donc, on prend pas la peine de l'expliquer. Mais peut-être que dans 20 ans, quand on va être tous pognés dans le trafic puis que ça sera plus rentable dans la ville de Québec, on va dire, il avait raison. Puis on va comme apprécier certaines prises de parole qu'on a détestées auparavant. Mais il veut peut-être pas se faire haïr en ce moment avec ce genre de discours-là. Mais on est difficile comme public citoyen.
Mais c'est parce qu'on veut garder nos habitudes, puis on veut garder les raisons pour lesquelles on aime ça, Québec. Puis une des raisons, c'est que le trafic nous fait pas trop chier comparé à Montréal et à d'autres villes. Fait que dès qu'on commence à vivre un peu de congestion, on vient bien nerveux. Puis il y a des explications tout à fait logiques à dire dans le développement normal d'une ville. On est rendu à rajouter un pont, on est rendu à rajouter un tunnel, on est rendu à rajouter un moyen moderne de transport en commun qui est un petit peu plus fiable puis qui est capable de ramasser plus de monde. Tout ça s'explique, tout ça se justifie. T'es pas en guerre contre personne. Mais s'il avait voulu être parfaitement honnête, il aurait dit « Je suis pas en guerre contre l'automobiliste, mais malheureusement, on est tous en guerre contre l'auto. » Parce que sans ça, là, les problèmes de trafic qu'on a là, en 2030, on est Montréal. Utilise l'image puis le cauchemar.
Puis t'aimeras pas être automobiliste à ce moment-là.
Non, c'est ça. T'auras plus de fun à avoir ton char de toute façon si on fait rien. Mais donne quelque chose, donne des avenues, donne des pistes de solutions qui sont pas juste « Voici la panacée, voici le remède miracle. Le tramway, à lui seul, ne règle pas tous les problèmes de congestion puis de circulation à Québec. Au contraire, surtout si on le fait en 8 phases comme c'est là, là, je veux dire, on va être dans des travaux éternels avant de pouvoir vraiment voir si ça change quelque chose puis si les gens adoptent le moyen de transport en tant que tel. Ouais,
mais l'idée que j'ai lue n'est pas folle. Là. Je veux dire, créer des petits centres-villes puis ensuite bâtir en hauteur. Les Trudel sont en train de faire exactement ça. Il y a des gens qui vont être capables de se loger, ils vont être capables de travailler, ils vont être capables d'aller au restaurant, aller faire leur épicerie, aller faire leurs activités dans le même quadrilatère.
Mais il faut travailler sur plein de choses en même temps. Là.
Mais une ville évolue. T'sais, le centre-ville de Montréal, à l'époque, il était dans le coin du Forum. Êtes-vous passé là récemment? C'est la mort! C'est l'enfer. Le centre-ville, c'est déplacé avec les buildings plus modernes et ainsi de suite.
C'est The Last of Us, parce qu'on était dans les séries depuis le début.
Oui! Puis New York, c'est pareil. Avant, c'était un peu plus vers le sud. Là, c'est monté un peu plus vers le nord. T'sais, une ville, ça évolue, mais il faut que tu encadres son évolution, puis il faut que tu diriges le trafic littéralement. Puis ça, cette réflexion-là est pas mauvaise. Puis je pense que déjà, nous autres, les automobilistes, nous autres, les citoyens, on prend des décisions en fonction de ça. Moi, je te dirais que quand j'ai fait la somme des avantages puis des inconvénients à « je change-tu de job ou pas », ça a été un point de réflexion majeur de dire « hey, je me ferai plus chier à monter en ville ». À tous les jours. Ça a fait partie de ma réflexion. Je ne sais pas si ça a fait partie de la tienne.
Pas du tout.
Mais, pas en tout. Non. Moi, j'ai pensé à ça. J'ai fait, hein, je reste à Charlebourg.
Moi, ça aurait joué sur un horaire. J'ai eu longtemps des horaires atypiques, fait que je le vivais pas. Mais si j'avais eu à le vivre à chaque jour, ça m'aurait pué au nez. Puis j'ai pas d'enfant à aller chercher la garderie en plus, puis des détours à faire.
Les travaux me faisaient déjà chier dans le temps. On n'avait pas commencé à travailler le tramway, le troisième lien. Puis là, on n'a pas commencé encore. Mais imagine-toi comment ça va être cauchemardesque.
Hey, c'est déjà pas drôle.
Saint-Vallier
en bas, là. Y a quelqu'un qui a essayé d'y aller dernièrement? Parce que moi, j'ai décidé d'y aller à vélo. C'était plus facile que. Puis c'est pas parce que je prends à vélo. Mais...
Le Bourgneuf, on a une salle de spectacle, on a 2 stations de radio, on est à 1 microbrasserie du bonheur. Là, je veux dire. On a plus besoin de sortir d'ici.
Si on peut avoir notre lit.
Il y a quelqu'un qui nous signale qu'il y a peut-être beaucoup de stratégies sur divers pans en ce moment, parce qu'un avion qui passe en haut de Charlebourg puis le Bourgneuf en ce moment, ce qui est écrit en arrière avec une grande pancarte, là, c'est « Le télétravail, tout le monde y gagne ». Je ne sais pas si c'est les fonctionnaires qui ont décidé de se payer une banderole.
Tabarnouche.
Puis un avion,
ça doit être les fonctionnaires, effectivement. Hey, sinon, il a dit aussi, le maire Marchand, qu'il était heureux du résultat du sondage qui est paru dans le journal de Québec. Il a dit « Je suis heureux, et c'est pas de la frime. »
Ouais, crois pas à ça.
Mais là, c'est 46 % des gens qui se disent insatisfaits de son travail à la mairie. Puis c'est 53 % des répondants qui veulent un changement à la mairie. Et lui dit « Je suis heureux et ce n'est pas de la frime. »
Les gens connaissent pas les partis d'opposition. Les gens connaissent pas les opposants au maire. Les gens votent pour quelqu'un qui s'est même pas présenté pour la prochaine campagne électorale. Et avec tous ces facteurs-là, t'es pas capable d'aller chercher un 70% de taux de satisfaction, tu ne peux pas te réjouir de chiffres comme ça. C'est des chiffres qui sont catastrophiques pour le maire parce que présentement, il roule sans opposition et sans challenge. Puis il n'est pas capable d'aller chercher un 60%.
Karine Gagnon a donné le baiser de la mort au maire.
J'ai lu ça ce matin, oui.
Je l'ai lu 2 fois parce que des fois, tu sais, la première lecture, je retiens bien juste ce que je veux retenir. Fait que je me suis dit, ben, possiblement que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Puis finalement, oui, c'est le baiser de la mort. Écoute, elle dit, le maire Marchand doit ajuster le tir. Rentrée difficile pour lui. Les sondages sont dévastateurs. Il aurait dû chercher à reconnaître certains torts et manifester une plus grande volonté d'écoute. Il nous a accueillis dans la salle du conseil municipal. Les traits tirés, la mâchoire serrée. Il y a une frustration envers les médias. Ce virus ne peut pas tout expliquer, à commencer par cette frustration qu'exprime ouvertement le maire et une partie de son entourage par rapport aux médias. Marchand s'avère en effet un élu hyper sensible à la critique, qui n'écoute pas beaucoup son entourage. Celui qui est devenu maire se sent visiblement persécuté au moindre commentaire. Un élu devrait saisir les critiques pour s'élever et mieux organiser la suite.
C'est pas un mauvais portrait, puis on a eu la chance de l'avoir à quelques reprises en studio, le maire Marchand, puis dépendamment des questions, dépendamment des enjeux, dépendamment de la date aussi, tu sais, la première entrevue, tu viens d'arriver, tout est beau, tout est le fun, t'es pas contesté non plus sur tes promesses et tes engagements parce que t'as pas commencé à travailler, mais je peux te dire que les dernières fois qu'il est venu en studio, j'ai senti un petit peu plus d'irritation à répondre à certaines questions, puis... Je pense que Karine Gagnon a raison sur le fond. Un maire, surtout d'une grande ville comme Québec ou Montréal, doit apprendre à apprendre de la critique puis à être capable de répondre sans avoir de l'air tout le temps tiraillé ou tout le temps piqué par les questions.
Super important. C'est ouais. super important. Mais de grâce, il a accepté de venir souvent dans ton émission, puis j'espère que ça va continuer.
Ouais, ben regarde, jeudi prochain, il va venir. Là, moi, je suis en train de lire tout ça.
C'est jeudi prochain.
Je fais juste me préparer plein d'autres questions. Là, c'est le fun de rebondir sur les premières entrevues, pour vrai, pour essayer d'amener ça un petit peu plus loin. Fait que j'ai hâte de voir dans quelle humeur il va avoir en studio quand il va venir nous voir.
Hey, dernier sujet, les amis, puis je vous le dis, si vous êtes sur la route, là...
moi, il demandé au maire. Marceau fait demander, c'était quoi ton virus? Hein? C'est Marceau qui veut le savoir.
Alors que je suis d'accord avec Bruno Marchand.
On pourrait parler aussi de notre idée de caricature. On pourrait le faire faire par quelqu'un, là, ce projet-là, non, mais... pour y offrir. Je répète.
Quand t'es une personnalité comme Bruno Marchand ou d'autres personnalités du Québec, quand t'es malade, t'es pas obligé de dire que t'as diarrhée.
Yannick, je suis pas une personnalité, puis je te le dirais jamais si j'avais une grosse diarrhée fulgurante.
Non,
là.
Mais quand t'es pas là, moi, c'est ce que je dis.
Je sais, puis que je suis enceinte, puis que
ben Audrey, elle fait, puis c'est ce que j'apprécie le plus d'elle.
Ouais, mais t'apprécieras d'autres choses de moi, Denis.
Le prochain sujet, j'ai hésité à vous en parler parce que je trouve ça ignoble, cette histoire-là. Ça se passe pas chez nous, ça se passe en France. On nous parle de l'affaire des viols de Mazin.
Ouais, mon Dieu.
C'est Maria Mourani qui en parle. Je vous dirais que je suis cette histoire-là depuis à peu près 2 jours. Puis Maria Mourani est arrivée avec un texte d'opinion ce matin. Puis ça ne me réconforte pas sur l'être humain. C'est l'histoire d'un homme qui a 70 ans, qui se fait prendre à un endroit parce que lui, son amusement, c'est de prendre des photos en dessous des jupes des filles. Mm. Et les policiers ont réussi à l'intercepter. L'ont amené au poste, lui ont posé certaines questions, ont regardé dans son cellulaire et sur le cellulaire, il y avait des viols évidents qui avaient été commis dans les images vidéo que les policiers ont regardées. Donc là, ils ont mis ça dans le dossier, ils ont demandé une permission au juge de pouvoir aller chez cet individu-là de 70 ans parce qu'ils se disaient « OK, ce gars-là, il fait des affaires certainement pas claires ». Et quand ils sont tombés sur la dame de la maison, ils se sont aperçus que la personne qui se faisait agresser sexuellement par des hommes différents, c'était la femme de cet individu-là. Et c'est une femme de 70 ans aussi. Cet homme-là est marié depuis 50 ans avec cette femme-là. Et elle a appris que son mari la faisait violer, donc la droguait. Elle s'endormait.
Elle savait pas.
Elle a appris par les images les rencontres policières.
Il la droguait, elle s'endormait et lui allait sur divers forums en disant j'aimerais vous faire violer ma femme. Et il y a des individus qui acceptaient. J'ai regardé les chiffres, Denis puis Pascal, là. Sur 80 individus qui ont été identifiés par la police, il y a 30 % des gens de ce site-là qui ont refusé la proposition.
30, c'est rien!
70%.
30, c'est l'appui au maire Marchand, là, en ce moment.
70% des gars ont accepté d'aller violer sa femme.
Il y a beaucoup de choses qui dépassent ma compréhension là-dedans.
Il y a beaucoup de choses.
Faire de quoi sans le consentement de quelqu'un puis s'exciter de ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Quelqu'un d'inconscient, ça ne me rentre pas dans la tête non plus.
C'est le fantasme du viol.
Mais, tu sais, si tu veux le faire en mise en scène avec quelqu'un de consentant, fais ce que tu veux. Tu peux même te déguiser en ourson si ça te tente, là. Mais moi, l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas être dans ces circonstances-là, qui est traîné malgré lui, quand on parle de la femme en question, il y a beaucoup, beaucoup de monde malade.
L'amour entre les deux, je m'excuse, mais il y a quelque chose qui est... Pour moi, c'est un level supplémentaire dans l'atrocité qui est de base. Là. C'est une atrocité de base, mais tu en ajoutes en se disant... La confiance que tu as portée à quelqu'un, la vie que tu as montée avec quelqu'un, cette personne-là l'a prise dans ses mains.
Ça me fait.
Est assez tragiquement, mentalement dérangée qu'il en a abusé. Un individu, un inconnu, tu n'as pas de rapport d'affection. C'est tragique et c'est épouvantable de base. Mais imagine avec un rapport d'affection.
Écoute, ça me rappelle l'histoire plus près de nous. Je pense que c'était à Québec. De la fille qui est allée sur l'ordinateur de son père puis qui a réalisé que son père se filmait dans des rituels sataniques où il disait qu'il allait violer sa fille. Puis ça avait fait une histoire scabreuse au palais de justice. Il y a du monde malade, puis Tu parlais des vidéos qu'on a retrouvées sur le téléphone. Il y a une pub de téléphone qui passe ces temps-ci à TV, puis je pensais aux histoires de crimes puis aux vidéos qu'on retrouve sur Internet puis que les gens téléchargent. Il y a une nouvelle fonction là, qui fait en sorte que tu prends une photo, tu prends une vidéo, il y a un miroir en arrière, là, tu peux scanner le miroir puis ils vont trouver où est-ce que tu peux l'acheter, whatever. Tu sais, je pensais aux enquêteurs qui tombent sur des milliers de fichiers où tu as des agressions sexuelles, tu as des crimes qui sont commis, puis là, il faut qu'ils commencent à démêler ça, puis... Il y a plusieurs années, on avait fait une entrevue avec un enquêteur qui se spécialise là-dedans, puis il nous expliquait que des fois, c'est le bruit d'un train que tu entends dans la vidéo qui fait en sorte que tu te dis « OK, c'est quelle sorte de train? Est-ce qu'on est capable de le reconnaître à sa sonnette? Est-ce qu'on est capable de dire c'est à quel temps du jour qu'on est dans l'appartement où se déroule l'agression? » Ça permet de situer des fois le quartier, ça permet même des fois de situer la rue parce qu'on est capable d'évaluer la distance entre le bruit du train puis l'endroit de l'appartement. Puis maintenant, ben tu peux regarder, mettons, un meuble ou whatever, puis te dire, OK, ça, c'est où ça peut être acheté, c'est où ça... Il y a tellement d'enquêtes à faire dans ce genre de dossier-là que de voir que maintenant, avec les technologies, on est capable d'aller chercher plein de choses. Dans son cas à lui, c'était des fichiers... qui lui appartenait et qu'il faisait lui-même.
20 000 photos et vidéos de sa femme qui se faisait agresser, 80 individus différents qui ont été identifiés par les policiers. Donc, j'imagine que ce n'est pas les seuls.
C'est probablement des vidéos, je ne sais pas si on en parle dans l'enquête, est-ce qu'il les a vendues, est-ce qu'il les a partagées?
Puis même les violeurs qui ont répondu à cet appel-là, est-ce qu'ils savaient que c'était filmé?
Maintenant?
Oui, ils savaient qu'il était filmé parce que le gars disait « Il ne se passera rien avec moi, c'est toi qui vas violer ma femme pendant qu'elle dort. » Puis moi, je filme. Et moi, je filme.
J'avais manqué le bout qu'il l'annonçait que c'était filmé. Puis ça part juste du fait qu'on a arrêté. Juste du fait, on s'entend. Si je me fais filmer en dessous de ma jupe, ça se peut que j'ai... réagissent, mais ça part de ça.
Mais c'est intéressant, ça aurait pu partir d'un pédophile ou d'un criminel que tu arrêtes en Inde. Puis sur son téléphone, lui, il y a 10 000 fichiers vidéo de gens qui se font violer, puis là, tu commences à les éplucher un par un. Puis tu peux partir l'enquête en Inde. Elle peut se transporter en Angleterre, elle peut se transformer en Europe. Il y a ce côté-là qui est encourageant maintenant parce que la technologie permet aux enquêteurs de retrouver les provenances de ces fichiers-là. Puis ça permet aussi à des gens qui se font une distance avec le crime. Tu sais, moi, je télécharge des dossiers de viol non consentant chez nous ou de viol d'enfants, mais c'est pas moi le criminel, j'ai rien fait. Non, non, tapeuse, parce que maintenant, on est capable d'aller te chercher puis on est capable de te ramener devant le concret du crime parce qu'on a trouvé l'enfant en Inde, parce qu'on a trouvé l'agresseur en Angleterre. Tu sais, il n'y a plus personne qui peut se laver les mains de dire, moi, je regarde la cochonnerie, mais le crime ne me concerne pas.
Non, ça m'empêche de passer à l'acte. On ne sait pas, parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être te tanner justement que ce soit vidéo. Moi, de l'intelligence artificielle et toute la sexualité, ça me perturbe. Il y en a qui vont dire ben, peut-être qu'ils vont empêcher les agresseurs de passer à l'acte ou encore développer encore plus son désir d'aller plus loin une fois qu'il sera insatisfait de ce que ça lui a apporté parce qu'il y a une distance. Ça me rappelle toujours Mme Bernard, qui est psychiatre et qui travaille auprès de délinquants sexuels, là, qui a été accusé ou pas. Maintenant, tu peux t'auto-scanner, puis appeler, puis avoir des services. Là. Ça a changé beaucoup dans les dernières années.
Je suis malade, traitez-moi.
Exact. Avant, même quelqu'un qui appelait puis qui se vendait, il n'était pas traité parce qu'il n'avait pas été accusé. C'est fou, ça.
Mais
elle, ce qu'elle disait, c'est même un exhibitionniste ou une exhibitionniste, je le dis souvent à Yann, qui se montre le filet de porc à grandeur de la ville. Au début, tu es comme, c'est un peu saisissant, ça peut être comique. Ne jamais prendre ça à la légère parce que c'est le départ d'une déviance qui peut aller plus loin.
C'est ça.
Donc, Dominique Pellicot qui s'est fait prendre par la police avec 20 000 images et vidéos de viol sur sa propre femme. Sa femme s'est présentée au palais de justice hier, puis tu comprendras qu'elle n'était pas dans son meilleur jour. Ça doit être épouvantable pour elle d'apprendre que les 50 ans d'amour que tu croyais avoir avec ton mari, ben, c'était 50 ans où tu t'es fait violer.
Terrible.
Pendant que tu dormais la nuit. Les policiers ont découvert dans l'ordinateur de Pellicot qu'il y avait même un photomontage dans son ordinateur qui était intitulé « Autour de ma fille à poil ». C'est juste pour ajouter, Nick, et c'est pas une invention, Nick qui m'écrit, dit « Salut, j'ai déjà eu un gars qui m'a proposé sur Reddit qu'il voulait bander les yeux de sa blonde et qu'il voulait que je prenne sa place sans que sa blonde soit au courant de quoi que ce soit, ni ma présence, ni celle qu'il aurait un autre gars que son chum dans la chambre. Je lui ai dit non, ça semblait un viol, et comment une chose comme ça peut se faire, c'est vraiment dégueulasse.
Non, il nomme, ça s'appelle pour lui, dit Nick, il dit, ça s'appelle un viol.
Mais le pire, c'est qu'on l'a vu au palais de justice cette semaine, une histoire comme ça, où des filles étaient consentantes d'avoir un rapport sexuel avec un individu nommé. Il arrive dans la chambre, il était cinq à se les échanger. Oui, c'est du viol.
T'sais. T'as pas de rapport de force après, tu sais. On
est malade.
Pas comment ça se passe. Mais c'est vraiment inquiétant, puis moi, j'ai entendu des affaires aussi par rapport à Tinder, Hinge, un genre de je me suis pas bien sentie le lendemain, puis des filles qui avaient pas le courage d'aller chercher plus loin parce qu'elle ne voulait pas accuser à tort quelqu'un, mais elle dit, on me semble que je ne vire pas saoul de même. Puis, tu sais, on parle de région de Québec-Montréal. Je ne parle pas d'une affaire que j'ai su en Europe ou que j'ai lu dans... Je vous parle de gens qui sont à une personne de moi ou à deux personnes qui racontent ça. Puis après, le mot se passe entre femmes de genre... Je comprends que des fois, tu dis une dette à maison, ça peut être le fun et autre, puis j'ai pas peur de... Mais tu connais pas la personne.
Je sais pas.
Il y en a qui en profitent.
Le consentement, c'est le fun. Essayez ça, moi. C'est bien à base, là.
Ouais. Puis, mais tu as plus de souvenirs que moi pour les films. Mais il y a déjà un film qui a été fait aux alentours des années 2000-2010. Je te donne un gap de 10 ans. Où la femme habitait dans un appartement. Puis, elle avait rencontré un gars qui était super sympathique, qui était genre le concierge de cet appartement-là. Puis, à un moment donné, elle trouvait que le lendemain, elle se réveillait comme un peu mélangée. Puis, elle avait décidé de mettre une caméra dans sa chambre.
Pour voir ce qui se passait.
Pour voir ce qui se passait. Puis, elle avait découvert que le gars, qui est le concierge, qui était un peu son amoureux, ben il venait la violer pendant qu'elle dormait. 418-971-101 par texto.
Ouais, je me souviens
parce
pas.
Que j'avais vu ce film-là, puis je me disais, tu sais, ben c'est un film. C'est un peu... le réalisateur puis l'auteur est un peu fucké, mais c'est un film. Mais là, on s'aperçoit que ça existe vraiment, ces gens-là.
Je me souviens d'un film qui s'appelle 8 mm, moi, qui m'avait marqué presque autant que Seven, quoique ça n'a pas eu autant de succès. Puis dans 8 mm, c'est un enquêteur qui essaie de remonter la filière de ce qu'on appelle des snuff films. Donc, des films où tu as de véritables agressions, de véritables meurtres, de véritables viols. Puis le punch du film, c'est que tu t'attends tout le temps à... arriver au bout de la patente puis avoir un genre de Hannibal Lecter, avoir un monstre ambulant. Puis à la fin, c'est juste un gars normal qui dit « Je peux être n'importe qui », tu sais, puis qui part à rire, puis tu te dis « C'est ça le vrai film d'horreur, c'est qu'il y a des monstres autour de nous qui ont pas de l'air de tout ça, mais qui sont des maudits malades. Dormez bien, tout le monde. »
Puis prenez soin des enfants, de leur conception environnementale, des émotions, des... Bah. Ça revient beaucoup à ça. Quelqu'un qui veut être quelqu'un d'autre, là. Pourquoi? Il a pas aimé sa vie, c'est passé quoi?
Quelqu'un qui veut être quelqu'un d'autre. Taking Lives, avec Angelina Jolie, puis l'autre qui était là. C'est un film qui a été tourné en forte majorité à Québec.
C'est vrai.
Taking Lives. Oui. Puis justement, c'est un gars, un psychopathe, qui, quand il rencontre des individus...
T'oublies tout le temps son nom, Ethan Hawke.
Ethan Hawke. Puis quand il rencontre des individus, il trouve...
McGill.
Il trouve qu'il y a une belle personnalité, fait qu'il tue le gars, puis il devient le gars.
Oui. Beaucoup de malades. Je le dis à la fin du retour, à toutes les soirs, je pense que je vais le dire là. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. Puis si vous êtes un Christy de malade, prenez soin de vous.
Oui.
OK? On va boucler la boucle avec ça. Ouais.
Oui. Le garage à Dan Goron.